France Musique.
Le journal, Olivier Denré. Bonjour Olivier.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à toutes et à tous. Des centaines d'amendements pour tuer le débat. Voilà résumé d'une formule, la stratégie de la droite face à la proposition de loi sur l'euthanasie, inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Proposition défendue dans le cadre d'une niche parlementaire réservée au groupe Libertés et Territoires. Pour le parti Les Républicains, pas question de légaliser une pratique considérée comme une transgression majeure par Jean Leonetti, le co-auteur de la loi actuellement en vigueur, qui prévoit une sédation profonde et continue, mais sans euthanasie active. Rosalie Lafarge.
Sur les quelques 3000 amendements déposés, 2300 viennent des LR et souvent des 5 mêmes auteurs, dans le viseur du coup d'Olivier Falorni, élu Libertés et Territoires à l'origine de la proposition de loi.
Un carteron de députés essaye d'empêcher que les députés votent sur un sujet de société majeur. Donc nous allons nous battre et quoi qu'il arrive, l'Assemblée nationale exprimera de façon historique sa volonté.
Et l'ancien socialiste n'est pas seul dans son combat. Parmi les 270 députés au moins qui le soutiennent, le président du groupe Agir, Olivier Becht, membre de la majorité présidentielle, il regrette lui aussi l'attitude de certains LR.
On assiste à une sorte de rétractation des Républicains vers cette espèce de noyau qui était sens commun, c'est-à-dire un parti un peu rabougri sur des positions très conservatrices. C'est dommage parce que je pense que ce n'est plus en phase avec ce qu'attend aujourd'hui la société, les Françaises et les Français.
Mais c'est un peu trop facile de tout remettre sur les épaules du groupe Les Républicains, dénonce son patron Damien Abad.
Je n'accepte pas des accusations totalement infondées de la part de Liberté et Territoire ou de la part de la majorité qui en fait joue ici au bal des hypocrites. Parce que si le gouvernement veut ce texte, il peut l'inscrire ce texte à tout moment et il peut faire voter et adopter ce texte à tout moment.
Une partie de la majorité présidentielle pousse déjà l'exécutif à faire en sorte que le débat se poursuive s'il n'arrive pas ce soir à son terme.
Et effectivement, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a récemment indiqué aux parlementaires qu'il y avait actuellement d'autres priorités, à commencer par la gestion de la crise sanitaire et la lutte contre l'épidémie de Covid-19. Une lutte qui passe par la vaccination, avec toujours cette difficulté de convaincre la population française d'accepter le vaccin d'AstraZeneca. Hier, l'Agence européenne des médicaments a une fois de plus souligné que la balance bénéfice-risque de ce produit était positive, même si elle admet désormais que le risque de thrombose fait partie des effets secondaires très rares. Président de MG France, le syndicat des médecins généralistes, le docteur Jacques Battistoni, appelle ce matin tout le monde à la raison. Il est interrogé par Bastien Munch.
On n'a pas de changement fondamental. On a un rapport bénéfice-risque qui reste favorable. Donc moi, j'espère et je pense que ça doit nous permettre de continuer à vacciner avec AstraZeneca. Il y a des patients qui ne sont pas éligibles pour l'instant au vaccin Pfizer, qui vont attendre de se faire vacciner, et je pense que c'est une perte de chance pour eux, parce que se faire vacciner par Astra plus rapidement leur permettrait de se mettre à l'abri, alors que le virus circule beaucoup actuellement, et les mettre à l'abri de formes graves, voire d'une hospitalisation. Si on leur dit, vous avez le choix, on voit bien que tout le monde va vouloir d'un seul vaccin, et puis qu'on va rester avec l'autre vaccin sur les bras. Donc, ce n'est pas forcément une très bonne solution. Il faut peser bien les indications, il faut qu'il y ait des cibles précises, il faut que demain, il y ait une place pour chaque vaccin et que ça puisse continuer à diversifier l'offre de vaccination pour vacciner beaucoup de personnes.
4 régions françaises annoncent ce matin qu'elles passent commande pour des trains qui roulent à la fois à l'électrique et à l'hydrogène. C'est une première mondiale d'après Alstom qui va les fabriquer. 12 rames au total. Dans un premier temps, la facture avoisine les 190 millions d'euros. Ils circuleront en Occitanie, dans le Grand Est, en Bourgogne-Franche-Comté et en région Auvergne-Rhône-Alpes. Dans la foulée du décret d'application publié la semaine dernière au journal officiel, l'UNEDIC dévoile son étude d'impact de la réforme de l'assurance chômage qui doit entrer en vigueur le 1er juillet prochain. Cette étude confirme 1 150 000 allocataires vont voir leur allocation journalière diminuer. Catherine Pétillon.
Ils toucheront 17% de moins, en moyenne, parfois beaucoup moins. 43%, c'est désormais la baisse maximale. Après l'intervention du Conseil d'État, le gouvernement a introduit ce dispositif de plancher. Le montant journalier est inférieur, mais la durée des droits ouverts est plus longue. C'est ce qu'a souligné Elisabeth Borne cette semaine encore, en défendant avec vigueur sa réforme. Et c'est vrai, en moyenne, les chômeurs auraient droit à 14 mois d'allocation contre 11 actuellement. Seulement, ce qui est présenté comme une forme de rééquilibrage est en fait assez théorique. Ce que montre cette étude de l'UNEDIC, c'est que malgré cette augmentation du montant global auquel les chômeurs auraient droit, dans la réalité des parcours, ils toucheront au total moins d'allocations. L'UNEDIC identifie trois grands cas. Les 35% de chômeurs qui vont aller au bout de leurs droits sans du tout retravailler, eux vont effectivement toucher autant ou plus d'allocations. En revanche, ces règles seront défavorables pour tous ceux qui retrouveront un emploi avant d'épuiser leurs droits. Enfin, les 38% de personnes qui vont au bout de leurs droits et les recharges, c'est-à-dire les gens qui enchaînent CDD et inactivité, toucheront eux, dans la majorité des cas, moins d'indemnités.
Au Mozambique, les autorités affirment qu'elles ont finalement chassé les djihadistes de la ville de Palma. Il y a deux semaines, les terroristes ont attaqué cette cité portuaire du nord du pays, provoquant la fuite de plusieurs milliers d'habitants. Un ciel variable sur le nord et sur la façade atlantique, des nuages également sur les Pyrénées, le soleil brillera partout ailleurs et les températures remontent. Elles iront de 8 à 21 degrés cet après-midi. Jean-Baptiste Urbain, c'est bon pour le moral, ça?
Ben oui, l'information revient à 13h sur France Musique. On garde le moral et on vous retrouve demain à 7h.
Avec Olivier plaisir, Denray. À demain.
Bonne journée.
À réécouter sur francemusique.fr.